En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Europe dans l'espace et dans le temps, c'était le titre de la conférence qui s'est déroulée le 3 décembre 2008 à l'Institut de paléontologie humaine, avec pour intervenant le professeur de Lumley, préhistorien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et directeur de l'Institut de paléontologie, et l'historien Christophe Réveillard. De l'Homo habilis arrivé à Haïfa il y a 2 millions et demi d'années, au traité de Schengen, il n'y a qu'un pas que vous propose de franchir nos deux intervenants. Écoutons dans l'ordre Henri de Lumley, puis Christophe Réveillard.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers amis, chers collègues. On m'a demandé de vous parler des premiers habitants de l'Europe. Alors je vais essayer de le faire. Bon, l'homme, comme vous le savez, nous l'avons dit déjà, l'homme fabricant d'outils est présent en Afrique depuis 2,5 millions d'années, 2,550,000 ans. Avant, les premiers hommes fabricants d'outils, il y avait déjà des hominidés, c'est-à-dire des primates qui marchaient debout et qui avaient les membres antérieurs libérés des taches de chromosomes. Ces premiers primates qui marchent debout sont apparus il y a 7 millions d'années. Et pendant 4,5 millions d'années, ils ne faisaient que marcher debout, ils ne fabriquaient pas d'outils. Et les paléontologues les appellent des hominidés, c'est-à-dire ce sont des primates bipèdes. Mais au milieu de tous ces groupes d'hominidés, vers 2,5 millions d'années, 2,550,000 ans, apparaît une forme plus évoluée, qui a un cerveau plus grand, qu'on appelle Homo habilis, qui regroupe d'ailleurs plusieurs groupes, des formes plus importantes, avec un cerveau plus gros, d'autres plus faibles, et qui sont les premiers fabricants d'outils. Ces Homo habilis occupent une grande partie de l'Afrique. Et c'est des formes proches des Homo habilis qui vont quitter très tôt le berceau africain. Vous voyez, les premiers outils taillés, les premiers Homo habilis, c'est 2,5 millions d'années, 2,550,000 ans. Mais dès un peu plus de 2 millions d'années, c'est-à-dire moins de 400 000 ans, vous voyez, un peu plus de 2 millions d'années, on trouve déjà des fabricants d'outils au Proche-Orient. Et dans un site qui est situé près de Haïfa, qui s'appelle Iron, où on a trouvé des outils taillés, on n'a pas trouvé encore des restes humains, mais on a trouvé des outils taillés sous une coulée de basalte qui a été datée par une méthode géochronologique qu'on appelle la méthode du potassium-argon d'un peu plus de 2 millions d'années. Donc on sait aujourd'hui que déjà en dehors d'Afrique, dans le couloir palestinien, en Israël, au nord d'Haïfa, il y avait déjà des hommes présents il y a 2 550 000 ans. Et puis alors, on a un site extraordinaire que vous voyez ici, c'est un site médiéval, hein. Mais c'est des maisons du Moyen-Âge qui avaient été construites au XIe siècle, qui se sont développées au XIIe, XIIIe, avec un âge d'or au début du XIVe siècle. Et au milieu du XIVe siècle, ce village médiéval a été détruit par Tamerlan à la tête de la Horde d'Or. Et les maisons du Moyen-Âge sont complètement détruites. Mais alors, des archéologues médiévistes géorgiens ont entrepris des fouilles dans ces maisons. Et sous les maisons, il y a des espèces de caves qui sont creusées et qui servaient à conserver des céréales, qui servaient peut-être à conserver de l'huile ou des... parce que les parois, parfois, sont tapissées par de l'argile. Et puis, quand elles étaient plus utilisables, elles servaient de poubelles. Et comme vous savez, les archéologues adorent fouiller les poubelles. Et des archéologues médiévistes, c'est-à-dire qui travaillent sur le Moyen-Âge, ont entrepris des fouilles non seulement dans les maisons, mais dans ces caves. Et un jour, au milieu de poteries du Moyen-Âge, poteries d'ossements de débris culinaires du Moyen-Âge, ils ont trouvé une fois une mandible d'un rhinocéros, une autre fois des éclats en quartzite taillés. Et ils se sont aperçus que ces caves ont été creusées dans des dépôts qui sont très anciens, des dépôts quaternaires, qui contiennent des outils préhistoriques. Alors, ces outils préhistoriques, c'est des chopeurs. Un chopeur, c'est un galet sur lequel une arête tranchante était aménagée par des enlèvements sur une seule face. Il y a deux grands enlèvements et ça aménage un tranchant. Ces galets aménagés avaient pour but de désarticuler des carcasses de grands herbivores. Notre outil, c'est un peu le même genre, mais celui-là, il est taillé sur les deux faces. On appelle cela un chopping tool. Ces galets, en fait, ce sont des sortes de haches primitives et qui sont très pratiques pour désarticuler une épaule de rhinocéros ou une épaule de bison. Et puis, au milieu de ces outils taillés, ont été trouvés des restes humains. Et aujourd'hui, on a 5 crânes, 4 mandibules, une trentaine d'ossements du squelette qui ont été trouvés associés à ces outils taillés, associés à une très grande quantité de faune. Et ces crânes, ces outils taillés, ces ossements ont été trouvés dans des cendres volcaniques. Et ces cendres ont pu être datées par la méthode du potassium-argon de 1 810 000 ans. On sait donc qu'en Géorgie, aux portes de l'Europe, vous voyez, il y avait des hommes présents dès 1 810 000 ans. L'homme a quitté le berceau africain où il est né vers 2 500 000 ans. Il est dans le couloir palestinien il y a un peu plus de 2 millions d'années. Et il est en Géorgie il y a 1 810 000 ans. La Géorgie, vous savez, c'est un couloir qui relie la mer Caspienne à l'est à la mer Noire à l'ouest, entre le Grand Caucase au nord et le Petit Caucase au sud. Et le site de Manissi est perché sur les pentes septentrionales du Petit Caucase à 1000 mètres d'altitude. Et ces hommes venaient s'installer dans cette région-là, à 1000 mètres d'altitude, il y a 1 810 000 ans. Alors, pourquoi là ? Eh bien, parce qu'il y a des pots volcaniques, ils sont d'ailleurs des volcaniques, qui devaient faire des sortes de barrages au fond de vallée et se former des lacs. Et en période d'inondation, il y avait beaucoup d'animaux qui devaient s'être noyés. Et on a trouvé sur le site des charognes, si vous voulez, des squelettes d'animaux en connexion qui évoquent des charognes sur lesquelles les hommes venaient découper des morceaux de viande. Et ces premiers hommes d'Afrique, comme les premiers hommes qui arrivent aux portes de l'Europe, étaient des consommateurs de viande, mais ils ne savaient pas chasser, c'était surtout des charognards. Et c'est une période, et en Afrique, mais maintenant en Géorgie, vers 1 810 000 ans, où se développent de grands territoires couverts de prairies, de savanes, ce qui entraîne le développement de grands herbivores. Et s'il y a beaucoup de grands herbivores, il y a des grands carnivores, comme la panthère géante, le tigre à dents de sabre, qui abattent ces grands herbivores, qui s'en repaissent, et puis ils les abandonnent, Et à ce moment-là, il y a l'homme, comme la hyène géante, qui sont en compétition pour avoir accès à la carcasse. Et à Manissi, on a trouvé beaucoup d'ossements de grands herbivores en quantité, souvent conservés en connexion anatomique, c'est-à-dire les os que sont en place, et aussi beaucoup d'os qui ont été broyés par une hyène géante. Mais aussi, il y a des os qui ont été découpés et raclés par l'homme avec un éclat de silex ou avec un chopper. Alors ça, vous avez le crâne d'une charmante jeune fille qui est morte vers 16 ans, à peu près 15 ans, 16 ans, et qui avait une capacité crânienne assez petite, comparable ou presque comparable à celle des Homo habilis d'Afrique. Et on peut dire que c'est des Homo habilis qui ont quitté l'Afrique pour arriver aux portes de l'Europe, aux portes de l'Asie, parce que la Géorgie est à la fois aux portes de l'Europe et aux portes de l'Asie. Mais cette forme est un peu plus évoluée que les Homo habilis classiques, d'ailleurs. Et mon épouse, Marionne de Lomelay, les a baptisés Homo georgicus. On a trouvé 5 individus d'âge très différent. Il y a cette jeune fille, mais il y a aussi un vieillard. Il y a beaucoup de choses. Alors, bien sûr, ce qu'on ignore, c'était la couleur des yeux, la couleur de la peau, peut-être. Mais on peut voir qu'ils avaient une face prognate, parce que ces restitutions ont été faites à partir de moulages du crâne. Et on remet en place la musculature d'après les crêtes d'insertion musculaire. Alors, vous voyez, ils avaient un crâne bas, un front très fuyant, un petit bourrelet, pas encore très fort au-dessus des orbites, et une face qui se projette en avant du crâne. Alors, nous savons aujourd'hui, grâce à ces découvertes extraordinaires, faites à Manissi, en Géorgie, qui sont en cours d'ailleurs, les fouilles ne sont pas terminées, on sait que l'homme arrive au port de l'Europe il y a 1 810 000 ans. Et puis, il va mettre un certain temps pour aller plus loin, et on va le retrouver sur les rives de la Méditerranée depuis 1 400 000 ans. Et on connaît aujourd'hui un site qui a été trouvé en Italie, sur la côte adriatique, pas très loin du Monte Gargano, qui s'appelle Pironor, et où il y a des éclats de taille, des outils taillés, associé à des faunes, et ce site date de 1 400 000 ans. Nous savons donc qu'après avoir arrivé au port de l'Europe il y a 1 800 000 ans, l'homme est déjà présent sur les rives de la Méditerranée il y a 1 400 000 ans. Ça, c'est une découverte très récente dont on parle à peine maintenant, car c'est l'année dernière ou il y a 2 ans qu'ont été trouvés ces éclats de taille associés à des faunes qui datent de 1 400 000 ans. Et puis, il y a deux sites extraordinaires qui ont été trouvés en Espagne. Ce sont les sites de Barranco-León et de Fuente-Nueva-3. Ces deux sites qui sont situés à environ 80 km au nord-est de Grenade. Là, il y a une grande vallée, une grande bassin, si vous voulez, qui est aujourd'hui désertique, une sorte de steppe à oliviers, on va dire. Mais il y a un peu plus d'un million d'années, mais même il y a 2 millions d'années, 3 millions d'années, il y avait un très grand lac, que c'était un bassin endoréique, c'est-à-dire un bassin fermé qui se remplissait d'eau. Et il y avait, et puis le climat était beaucoup plus pluvieux. Aujourd'hui, c'est un climat aride et steppique. Et il y avait un très grand lac. Mais vers 400 000 ans, ce lac s'est vidé parce qu'il a été capturé par un fleuve qu'on appelle le Guadalquivir. Et ce bassin endoréique est devenu un bassin exoréique, c'est-à-dire que l'eau ne reste plus, n'est plus piégée dans le bassin et s'écoule, toutes les eaux s'écoulent dans le Guadalquivir. Mais pendant plusieurs millions d'années, il y avait un très grand lac. On a pu mettre en évidence la rive du lac, un massif de calcaire jurassique. Et entre les deux, entre le bord du lac et le massif de calcaire jurassique, il y a une zone de marécage. Et dans cette zone de marécage, on a découvert, nos collègues espagnols ont découvert deux sites préhistoriques extraordinaires, le site de Barranco-León et le site de Fuente Nueva 3. C'est une bande étroite de marécage entre le bord du lac et le massif de calcaire jurassique. Alors, des datations qui ont été faites par l'étude des faunes, mais aussi par des méthodes de datation absolue, comme la résonance électronique de spin, ont montré que ces deux sites ont plus d'un million d'années, et le paléomagnétisme ont montré que ces deux sites ont plus d'un million d'années, datent d'environ 1 200 000 ans. Et il y a 1 200 000 ans, des hommes étaient venus s'installer ou circuler, fréquenter ces marécages. Et à Barranco-León, par exemple, on a trouvé des squelettes d'hippopotames entiers en connexion anatomique. Tous les ossements sont en connexion. À Fuente Nueva 3, par exemple, on a trouvé un squelette d'éléphant. Il manque juste la tête et les membres postérieurs, une partie des membres postérieurs, mais les ossements, la colonne vertébrale, les côtes sont entières, sont en place. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a trouvé autour de ces hippopotames, de ce squelette d'éléphant, on a trouvé de tout petits éclats de taille, de petits éclats de silex ou de quartz, tout petits, et aussi beaucoup de coprolites de hyènes. Et on voit très bien que c'est des grands herbivores qui étaient morts au bord de marécage, qui ont été sans doute abattus par des grands carnivores, qui les ont abandonnés, et deux prédateurs avaient accès à la carcasse, se disputaient la carcasse. C'était la hyène géante qui est attestée par ses coprolites et par les petits bonhommes qui venaient récupérer la viande. Alors, nous avons une bonne idée de l'outillage. L'outillage est très simple. Il y a quelques nucléus, c'est-à-dire des blocs de silex ou de quartz qui ont été percutés pour obtenir des éclats. Mais le but, c'était d'obtenir ces éclats, c'est-à-dire des petits éclats très petits, qui souvent la taille c'est 2-3 cm, 4 cm pour les plus grands. La taille des plus grands nombres c'est 2 cm, 2 cm et demi de côté, qui étaient des espèces d'éclats tranchants pour accler la viande sur les ossements des carcasses abandonnées. Et ces éclats ne sont jamais retouchés. Il n'y a pas de retouche, de modification du bord. C'est une industrie extrêmement primitive. Alors maintenant, je voudrais vous présenter un autre site qui est bien connu, qui a été trouvé, lui, en France, et qui est un peu plus récent, qui date de 1 070 000 à 1 million d'années. Barranco-León et Fuente Nueva 3, c'était 1 200 000. Pire au Nord, c'était 1 400 000. Et maintenant, la grotte du Vallonnet, c'est entre 1 070 000 ans et 1 million d'années. Alors, c'est une grotte perchée aujourd'hui à 108 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais au début du Quaternaire, il y a 1 million d'années, c'était différent. Elle n'était pas très loin du bord de mer. Mais pas parce que la mer est montée jusqu'à 108 mètres, c'est que depuis le continent est monté. Les Alpes-Maritimes, c'est massif, calcaire, dans les Alpes-Maritimes, sont à l'extrémité méridionale de la chaîne alpine qui a continué à se soulever pendant tout le quaternaire. Et lorsque cette grotte a été choisie entre 1 100 000 ans et 1 million d'années par des grands carnivores, mais aussi par des hommes. Alors voici la grotte. La mer avait battu dans la grotte il y a à peu près plus de 1 100 000 ans et a sculpté les parois de la grotte. Et puis par-dessus, il y a des dépôts continentaux dont là, j'ai compris, à la base, entre 1 100 000 ans et au sommet, 1 million d'années. Et dans ces dépôts, on trouve une faune très abondante, surtout une faune de grands herbivores, mais aussi on trouve des carnivores. Et cette grotte, entre 1 170 000 ans et 1 million d'années, a été habitée, surtout par des carnivores. Ça a servi, par exemple, à un moment donné, de nurserie de panthères. On a beaucoup de dandelées de panthères qui devaient habiter la grotte. Mais quand ce n'était pas la panthère qui avait des grottes, ça pouvait être le tigre à dents de sabre. Le plus souvent, c'était l'ours. Un ours archaïque qu'on appelle l'ours de neigeur. Et puis, ces grands carnivores devaient amener des carcasses dans la grotte. Et quand ces grands carnivores partaient, c'était ou la hyène, ou l'homme qui venait essayer de récupérer ce qui avait été abandonné dans la grotte. C'est ainsi qu'on trouve beaucoup d'os d'ours, des os de cerf mélangés. C'était des panthères, des l'ours, le tigre aux dents de sabre, l'ours qui a mené des charognes à la grotte, donc on trouve beaucoup de cerfs. Et souvent, ces os ont été mordus, brisés, mâchonnés par la hyène. Une hyène qui devait récupérer les carcasses abandonnées à la grotte. Mais parfois, ce n'était pas la hyène qui venait, c'était l'homme. Et dans plusieurs couches, on a trouvé des éclats de taille, des outils taillés, comme vous pouvez voir par exemple. Là, ici, vous voyez, là, ici, c'est une métatarse de bison. Ici, c'est un crâne de loup. Ce chopper, c'est-à-dire c'est un galet, sur lequel une arête tranchante est aménagée par des Allemands sur une seule face, qui devait servir à racler la viande sur les os avec des carcasses abandonnées par un grand carnivore au fond de la grotte. Alors, vous voyez ici, nous avons ici des preuves. Pierre au Nord, en Italie, Barranco-Léon et Fontaneva-Trois, dans le bassin de Guadix-Baza près de Grenade, la grotte du Vallonnet près de Rocamécantin, et puis d'ailleurs très récemment un autre site, en Espagne toujours, en Espagne encore, situé pas très loin de Burgos, dans un site qu'on appelle la chima, c'est-à-dire la veine des éléphants, chima d'éléphante, a été trouvé aussi dans une couche qui date de 1 200 000 ans, des éclats de taille, et même depuis un an et demi, un fragment, la partie antérieure d'une mandibule, que nos collègues espagnols appellent homo antecessor, et c'est sans doute une forme très proche de l'homo georgicus. C'est un petit individu un peu gracile. C'est les premiers et tout premiers habitants de l'Europe depuis 1 500 000 ans. Alors maintenant, je voudrais vous présenter un autre site, c'est une nouvelle phase dans l'histoire de l'humanité en Europe. Alors nous allons aller, si vous voulez bien, dans le Latium à Ceprano. Entre Rome et Naples, il y a une espèce de fossé d'effondrement avec, à l'est, on regarde vers le sud, à l'est, les Apennins, à l'ouest, les monts Lepini, et entre les deux, il y a une espèce de fossé, on pourrait dire un rift avec un fossé d'effondrement, et dans ce rift se sont formés des lacs, et puis des volcans ont surgi, et si bien qu'on a des dépôts lacustres dans ce fossé, interstratifié de dépôts volcaniques, ce qui permet de bien les dater. Et ici, nous sommes dans un site qui s'appelle Ceprano, qui a livré aussi, dans des couches qui datent un peu plus récentes, qui datent d'environ 800 000 ans, un très grand nombre de petits éclats. Mais pour la première fois, on voit apparaître des éclats retouchés. Et on peut dire que c'était un stade un peu plus évolué que les industries les plus archaïques. Les hommes commencent à modifier le bord des éclats pour faire un denticulé, une encoche ou un petit racloir. Mais ce n'est pas encore des outils stéréotypés, standardisés, comme on le verra plus tard. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce site a été trouvé un crâne beaucoup plus robuste, beaucoup plus volumineux, qu'on appelle l'homme de Ceprano, que nos collègues italiens ont appelé Homo sepranensis. Bon, En fait, il est très différent, ou assez différent, des hommes de Manissi qui dataient de 1 800 000 ans. Et vous voyez, il date de 800 000 ans. Il y a 1 million d'années d'écart entre le crâne de Manissi et celui-là. Et vous voyez que le crâne est beaucoup plus robuste, avec un crâne assez bas tout de même, mais beaucoup plus haut que ceux de Manissi, un front toujours fuyant. Et ce qui le caractérise, c'est un torus, un bourrelet au-dessus des orbites, extrêmement fort. Il est assez proche d'un crâne d'Homo erectus. Et puis, alors, je voudrais vous présenter un autre site qui est situé alors en Espagne. On retourne dans la région de Burgos. C'est le site de Grandolina, dans la province de Castille-León, en Burgos. Alors là, il y avait une ancienne tranchée, une ancienne voie ferrée qui a traversé des grottes. Et une des grottes qu'on appelle Grandolina. Nous avons ici deux collègues. À droite, le professeur Odal Carbonel. À gauche, un paléontologue aussi espagnol qui étudie les faunes. Et il monte une couche, et il monte même un reste humain, une des couches qui date de 800 000 ans. Comme c'est le même âge que Ceprano. Vous voyez. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a trouvé une industrie assez archaïque, avec beaucoup de chopères, une très grande quantité d'éclats, mais comme à Ceprano, on voit apparaître des outils retouchés. Là, vous avez un denticulé. Donc une industrie qui est un peu plus évoluée que les industries les plus archaïques. Mais ce qui est extraordinaire à Ceprano, c'est qu'on a trouvé de nombreux ossements. Il y a actuellement, pas Ceprano, à Grandolina, dans ce site, on a trouvé une centaine de restes d'hominidés. Mais comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement brisés, extrêmement fracturés. Mais on trouve de toutes les parties du squelette, des côtes, des vertèbres, des os, du carpe et du tarse, et des morceaux de crâne et de mandibule. Et ça correspond à plusieurs individus. Ça correspond actuellement à peu près 5 individus ou 6 individus, 4 jeunes enfants et 2 jeunes adolescents. 4 enfants et 2 jeunes adolescents. Et si on regarde, les crânes, les os sont brisés, vous voyez, le crâne à mandibule. Et si on regarde les os de près, on s'aperçoit qu'il y a des stries de découpage, vous voyez. Les stries de découpage sur les os, c'est que, en fait, c'est un repère de cannibales. Et ils choisissaient les enfants, les petits-enfants. La viande est plus tendre, hein. Et ils récupéraient la viande. C'était des fins gourmets. Ils ont mangé surtout des enfants et des petits-enfants. Alors, ces crânes sont assez... ce sont des jeunes, alors c'est difficile de caractériser anatomiquement, phylétiquement, leur position. Mais nos collègues espagnols ont créé l'espèce d'Homo antecessor. Alors maintenant, je voudrais vous présenter un site qui m'est cher. C'est le site de la Cône de l'Arago, dans les Pyrénées-Orientales. Là, je vous amène, si vous voulez venir voir ce site, vous prenez l'autoroute qui va jusqu'à Barcelone, à partir de Narbonne, vous voyez. Vous descendez, suivez le bord de mer, en direction de Barcelone, de Perpignan. Mais un peu avant Perpignan, vous voyez sur l'autoroute une pancarte, Totavel, moins 400 000 ans, prochaine sortie. Et là, vous pouvez venir jusqu'au musée de Totavel, ou jusqu'à ces gorges, vous voyez, les gorges des Gouliros, sont des gorges étroites et profondes, avec une rivière qu'on appelle le Verdouble, qui va se jeter dans la Glie. Alors là, vous apercevez les tentes des chercheurs de notre équipe. Et la grotte est située ici, à 80 mètres au-dessus du niveau de la rivière. Alors ici, la grotte, c'est une grande galerie et qui contient des dépôts très épais qui ont 15 mètres d'épaisseur. Et les couches les plus basses qui sont sur le rocher datent de 700 000 ans. Et les couches les plus hautes, au sommet du remplissage, datent de 100 000 ans. C'est-à-dire que la Cône de l'Arago, Cône ça veut dire grotte en catalan, la Cône de l'Arago s'est remplie en 600 000 années. Il y a des dépôts qui vont de 700 000 ans à la base jusqu'à 100 000 ans au sommet. Alors on trouve des couches d'âge très différentes. Ici par exemple, vous avez un sol d'occupation, vous voyez, et tous ces ossements que vous voyez, ce sont des ossements de rennes. C'était des chasseurs de rennes, mais dans ces couches-là, on trouve du renne en abondance, mais on trouve aussi beaucoup de chevaux. Ça évoque des paysages découverts. Mais on trouve aussi du bœuf musqué, qui est un animal qui vit actuellement au-delà du cercle polaire. On trouve du renard polaire. On trouve du limigacolier. Le limigacolier est un petit rongeur qui vit dans les steppes de l'Arctique. Eh bien, cette faune qui évoque un climat glaciaire, un climat froid, vivait alors sur les rivages de la Méditerranée. Ici, alors, c'est une couche qui date, la couche que je vous ai présentée datée de 550 000 ans. Ici, c'est une couche qui date de 500 000 ans. Alors, le climat a complètement changé. Ce sont des argiles apportées par le ruissellement. Alors que dans la couche précédente, il n'y avait presque pas de pollen d'arbres. Ici, il y a surtout des pollens d'arbres. Tout à l'heure, c'était une prairie, une steppe. Ici, maintenant, c'est une forêt. Et les ossements que vous voyez là, ce sont des ossements de cerf ou de daim. Donc, il y a qui dit qu'un climat chaud, assez forestier, alors que tout à l'heure, il y a 550 000 ans, c'était un climat, une steppe désolée, balayée par le vent, qui évoquait un climat froid avec du renne, du bœuf musqué, du renard polaire. Ici, c'est un climat, un paysage forestier, avec une grande abondance de cerfs. Et puis là, on revient vers 450 000 ans, à un climat froid, steppique. Et vous voyez que, au cours du quaternaire, le climat s'est modifié sans cesse. Et on a des cycles de 100 000 ans. Une période froide, en général, dure 80 000 ans, et une période chaude de 20 000 ans. Ici, nous sommes en présence d'une période froide qui date de 450 000 ans. Ici, c'est une période chaude qui date de 500 000 ans. Ici, c'est une période froide qui date de 550 000 ans. Vous voyez, tout le long du quaternaire, on a des oscillations climatiques. Le climat a évolué au rythme des millénaires. Alors, les hommes ont des outils, toujours des chopeurs, ces gros galets sur lesquels une tranchant a été aménagée sur une seule face, des outils qui servent à désarticuler les carcasses de grands herbivores. Mais l'homme est devenu chasseur, il n'est plus charognard maintenant. Et alors quand vous êtes chasseur, c'est pas plus, quand vous avez abattu un animal, c'est pas facile de récupérer de la viande. Il faut commencer par l'ouvrir, ouvrir la peau. Et pour ouvrir le poitrail d'un animal, pour ouvrir le poitrail animal, il faut avoir des outils de grande taille, très tranchants, et ils inventent le biface, cet outil qui présente une symétrie bilatérale et bifaciale, qui est beaucoup plus utile, qui est très utile pour découper, pour ouvrir le poitrail d'un animal. Le biface est l'outil, le couteau du chasseur. Et on a eu la chance, à la Côte de l'Arago, de trouver de nombreux restes humains. Et nous avons actuellement découvert, dans la Côte de l'Arago à Tautavel, 121 restes humains, qui nous permettent de reconstituer la morphologie des premiers habitants de l'Europe. Et là, voici un crâne que nous avons découvert, vous voyez, qui reposait sur la voûte, le maxillaire supérieur en l'air. Et voici ce crâne qui nous permet d'avoir une bonne idée de la morphologie des premiers habitants de l'Europe. Vous voyez, ils avaient le crâne bas, le fond fuyant, un puissant bourrelet au-dessus des orbites et une face qui se projette, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, en avant du crâne. Et une capacité crânienne alors, qui est beaucoup plus forte que celle des premiers hommes. Je vous ai dit tout à l'heure, l'homo habilis, l'homme de Georgie, 600 cm3. Maintenant, ils ont une capacité crânienne de 1100 cm3. Mais c'est quand même moins fort qu'une capacité crânienne d'homme actuel qui est de l'ordre de 1400 cm3. Alors voici l'homme de Tautavel. Et si vous venez à Tautavel, que vous pénétrez dans le musée, vous pourrez voir des reconstitutions de l'homme de Tautavel. Vous avez presque l'impression de voir des individus, des Homo erectus européens, des Homo heidelbergensis, en chair et en os. Alors il avait le crâne bas, le fond fuyant, ce bourrelet de surbite, des pommettes saillantes, parce que les omalaires sont en façade, une face qui se projette en avant du crâne. Il n'était pas très grand, 1,65 m, large de hanche, large d'épaule, pas très grand, mais très costaud. Alors bien sûr, c'est une reconstitution très fidèle, très proche de la réalité, si ce n'est que nous ignorons la couleur de la peau ou la couleur des yeux. Mais autrement, tout le reste est très proche de la réalité. C'est une reconstitution scientifique qui a été faite. Et voici le paysage. Alors, les hommes reviennent vers leur campement, vous voyez. Là, au pied de la grotte, il y a une plaine, une steppe à graminer et à composer, qui va être balayée par le vent. Et il y avait les hommes, les femmes, les enfants qui vivaient dans la grotte. Nous savons qu'il y avait toute la famille, parce que souvent, on trouve des dents de lait d'enfants, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas morts, qui n'étaient pas morts lorsqu'ils ont perdu leurs dents. Ils sont morts, c'était des dents de lait qui tombaient. S'il y avait les dents de lait d'enfants, ils devaient aussi leur maman. Donc il y avait, dans certains niveaux, toute la famille qui vivait. Et on s'est aperçu à la Côte de l'Arago qu'il y a plusieurs types d'habitats. Il y a des campements de longue durée, c'est-à-dire 2-3 ans. Il y a toute la famille. Et les hommes cherchaient, les chasseurs, chercher dans plusieurs biotopes, dans plusieurs niches écologiques. Puis il y a des campements saisonniers temporaires, c'est des campements de quelques mois, 3 mois, 2 mois, Et là, il y a aussi tous les chasseurs qui vivent. Mais les chasses sont spécialisées. Ça peut être la chasse au mouflon. D'autres niveaux, c'est la chasse au cerf. Et puis, il y a ce qu'on appelle des haltes de chasse, c'est-à-dire des occupements de très courte durée. Et là, il y a seuls les hommes, les chasseurs étaient là. Dans ces niveaux-là, on n'ouvre pas de dandelée d'enfants. Alors maintenant, je voudrais vous montrer un autre site, car dans ce site-là, on n'a pas représenté à l'entrée de la grotte de foyer. Il n'y a pas de feu. Car jusqu'à 400 000 ans, les hommes n'avaient pas domestiqué le feu. Depuis 2 millions et demi d'années, les premiers outils, jusqu'à 400 000 ans, on ne connaît pas de foyer préhistorique aménagé. Par contre, à partir de 400 000 ans, à Nice, par exemple à Terramata, nous avons ici un chantier qui a été ouvert. Et c'était des fouilles qui ont été faites à l'occasion d'un chantier de construction d'un immeuble. Et là, on a trouvé dans ce site des campements de chasseurs d'éléphants, de cerfs, mais même de rhinocéros. Et l'intérêt exceptionnel de ce site, c'est d'avoir mis en évidence des foyers aménagés avec une cuvette ici de 30 cm de diamètre qui était remplie de cendres et un petit mur de pierre et de galets qui était destiné à protéger le foyer des vents dominants. Alors, ces hommes de Terramata, il y a 400 000 ans, domestiquaient le feu. Et les plus anciens foyers aménagés connus dans le monde, et en particulier en Europe, datent de 400 000 ans. On connaît d'autres foyers en Europe de cette époque-là. On en connaît un dans un site de Hongrie qui s'appelle Vetszolos, qui est situé à 60 km environ à l'ouest de Budapest. On a découvert des foyers récemment dans le Finistère, en Bretagne, à Ménez-Régan, près de la pointe du Raz, qui date de 400 000 ans. À Cône-de-Largo, à Tautavel, dans les couches dont là j'ai compris entre 700 000 et 400 000 ans, il n'y a jamais une trace de feu, pas de charbon de bois, pas d'os brûlé, pas de cendre. Par contre, dans les couches les plus hautes, on trouve au-dessus de 400 000 ans, plus récentes que 400 000 ans, on trouve des os brûlés, des pierres éclatées par le feu, des charbons de bois. Donc le feu a été un formidable moteur d'hominisation, apparaît en Europe, mais dans le reste de l'Eurasie, en Chine aussi, à Choukoutienne en Chine, à partir de 400 000 ans. Alors maintenant, je voudrais vous montrer un autre site pour terminer, qui est très important. On retourne en Espagne, à Sierra de Tapurca, et là, vous êtes entré d'une très grande grotte qu'on appelle la Cueva Mayor. Et notre collègue Dal Carbonell, qui a passé d'ailleurs il y a quelques années sa thèse dans cette salle, a entrepris des fouilles dans ce site. Et à 400 mètres de l'entrée, il y a un aven de 15 mètres de hauteur, dans lequel on peut descendre, vous voyez, avec une échelle de spéléo. Et c'est assez difficile parce que les parois sont en surplomb. C'est-à-dire que quand on descend, on est loin des parois. Et au pied de cette fois, ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé de nombreux restes humains qui datent de 300 000 ans. 300 000 ans. Et on allait trouver les éléments, les ossements de 32 personnes. Il y a des enfants de 9 ans. Il y a une assez forte proportion de dames de 14 ans, 15 ans. Des individus entre 18 et 24 ans, 25 ans. Puis il n'y a personne au-delà. C'est-à-dire que c'était à l'époque où on mourait, à l'époque préhistorique. Et les os sont entiers. Ils sont des fois cassés par le poids des terres, mais il n'y a pas de fracture sur os frais, c'est-à-dire de fracture d'individus qui seraient tombés, qui seraient cassés. C'est sans doute des corps qui ont été jetés dans un état cadavérique. Et ils ont été jetés au fond de la veine et les os ne se sont pas cassés. Et on peut dire que c'est un aven sépulcral. C'est 32 individus qui ont été jetés. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que les os sont en bonne état de conservation, comme vous voyez ce crâne et cette mandibule d'un Homo heidelbergensis qui date de 300 000 ans. Le crâne est un peu plus évolué que celui de l'homme Tautavel. Vous voyez, il est un peu plus haut, il est un peu plus court surtout. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au milieu de cet amas d'ossements, eh bien, un biface, un outil bien caractéristique, taillé en quartzite rouge, de très bonne qualité, particulièrement soigné, et qui n'a jamais servi l'étude de ces tranchants, montre qu'il n'a jamais été utilisé. Il a été jeté au milieu de ces cadavres qui avaient été jetés au fond de la veine, et manifestement, c'est une offrande funéraire. Et cette offrande funéraire témoigne des premiers balbutiement de la pensée symbolique en Europe. C'est le plus ancien témoignage d'une sorte de rituel funéraire, une offrande funéraire dans un aven sépulcral il y a 300 000 ans, qui est un témoignage de l'émergence de la pensée symbolique en Europe il y a 300 000 ans. Je vous remercie.
Alors évidemment, en vous écoutant, monsieur le professeur, je me rendais bien compte que le saut est phénoménal, c'est-à-dire que nous allons parler de l'actualité européenne. Et en vous écoutant, j'avais donc tout à fait conscience de ce saut qualitatif et quantitatif de l'émergence de l'homme en Europe, mais également l'impression que vous aviez décrit, fait revivre avec une réelle force d'évocation un commencement, et que malheureusement j'étais chargé de parler devant vous plutôt d'une fin, espérant que ce soit un renouvellement. Parce que ce que je vais vous dire ce soir, et pas forcément le plus rapidement possible, bien sûr, n'est pas forcément très réjouissant. Donc, le jeu de ce soir est donc de passer d'une séquence historique très importante, très étalée, donc l'échelle du temps différenciée. C'est l'un des décalages voulus par ce genre d'exercice. Alors, notre rapide exposé a pour objet l'étude de l'actualité européenne en ses éléments les plus structurants. Bien sûr, il y aura des choses dont je ne parlerai pas ce soir, beaucoup de choses, la majorité des choses, mais on va essayer d'évoquer ce qui est le paradoxe de l'Europe organisée, l'Union européenne, et de l'Europe continentale en particulier, en général, c'est-à-dire à la fois l'extrême hétérogénéité d'un ensemble géographique continental et pourtant potentiellement facile à définir. Donc après un retour rapide sur l'histoire récente, je le ferai assez rapidement, on pourra y revenir après pour les questions, s'il y en a, sur les organisations à vocation d'intégration, eh bien nous insisterons plus tard sur les facteurs humains de l'Europe actuelle. Donc pardon pour un début peut-être un peu rapide, sur eh bien, en fait, la conquête essentiellement territoriale de l'Europe. Comment l'Europe unie a pu voir le jour? Eh bien ça commence par le conflit. Dans son XXe siècle, l'Europe politique va connaître un nombre de ruptures, de séparations, de conflits guerriers, une guerre froide également, dont la particularité va être la glaciation des positions des deux coalitions qui vont se faire face. Et la conquête, la recherche, eh bien, c'est la conquête territoriale. La recherche première de cette histoire récente, hors l'ambition de l'accroissement du pouvoir, est donc la tentative d'une union territoriale, d'une Europe géographique à redéfinir dans le cadre des idéologies nazies, communistes, puis dans le cadre d'une séparation Est-Ouest, qui voit in fine la victoire occidentale donc, sur le communisme et la progression donc, subséquente du système d'intégration de sécurité collective atlantique. Ainsi, l'Europe continentale eh bien, est le cœur, joue un rôle central dans l'organisation du monde. Les géopoliticiens disent le Heartland continental, qui a le cœur du monde, le cœur de l'Europe, eh bien, possède le cœur du monde. C'est le lieu central de l'affrontement des puissances. À cet égard, donc, la chute du mur de Berlin et celle du communisme soviétique eh bien, est la véritable charnière géopolitique à l'échelle du monde et la projection de celui-ci dans le XXIe siècle, c'est-à-dire celui d'une puissance, superpuissance américaine incontestée, unilatérale, dans un monde multipolaire et régionalisé. Nous n'avons plus une glaciation entre deux superpuissances, nous n'avons plus, après la fin des années 90, une seule hyperpuissance, comme a dit un ministre des Affaires étrangères français, nous avons une superpuissance unilatérale, mais dans un monde où il y a des émergences multipolaires. À chaque étape, on voit bien donc que les tentatives d'unification politique correspondent à une volonté de définition du territoire européen et de sa définition au profit des acteurs de puissance. Au final, donc, le vainqueur aura vocation à connaître un épanchement territorial de son système politique pour construire un cadre fédératif, des schémas culturels communs de l'ensemble européen. Donc l'élargissement de l'Union européenne, eh bien, c'est une dilatation communautaire aux dépens de la zone d'influence russe de l'ancienne zone soviétique. C'est donc dans cette hypothèse que la communauté européenne, puis l'Union européenne, eh bien, va connaître une formidable perspective d'unification économique, politique et de sécurité, tout d'abord de l'Europe occidentale, notamment avec l'OTAN, et pour poursuivre ensuite sur un processus à vocation occidentale, pour poursuivre sur une vocation continentale dont la perspective d'élargissement a, semble-t-il, pris le pas sur l'approfondissement. On en parlera tout à l'heure sur l'identité. Vous savez, c'est le diptyque entre approfondissement et élargissement. Si l'on insiste trop sur l'un des deux, eh bien, il tue l'autre. Ainsi, l'Union européenne constitue maintenant, Russie mise à part, eh bien, la majeure partie de la superficie et des populations européennes. Son territoire représente 4 300 000 km² et la population qu'elle rassemble est de 495 millions de personnes. Ne disons pas 500 millions, puisque justement nous évoquerons tout à l'heure les perspectives démographiques. Eh bien, on constate malgré tout la permanence des hétérogénéités, d'abord d'ordre symbolique et religieuse, avec les trois blocs identitaires, je finis sur l'économie, sur la puissance de l'Union européenne en tant que telle, dans le monde devenu globalisé, la permanence de trois hétérogénéités, d'ordre symbolique et religieux avec les trois blocs identitaires classiques, à l'origine et à la formation orthodoxe des Slaves, protestants de la Mitteleuropa et de l'Europe du Nord, et catholiques pour les États latins. Évidemment, tout ça pour faire un peu rapide. Deuxième hétérogénéité, eh bien, elle est d'ordre politique, avec le conflit entre le cercle communautaire étatique, dont la désuétude est, semble-t-il, programmée, en tout cas, elle est annoncée depuis longtemps, par le haut, avec le système supra-étatique que je cherche à achever devant vous, là, des institutions européennes, donc supra-étatiques, supranationales ou OPNI, comme disait Jacques Delors, objets politiques non identifiés. Et puis, par le bas, avec les collectivités locales et le régionalisme exprimé de façon plus ou moins fédérale selon les États nationaux. Enfin, d'ordre géopolitique, hétérogénéité géopolitique, avec une appréciation tout à fait différente des priorités internationales et transfrontalières, vers le sud pour les pays de la rive nord de la Méditerranée, vers l'Europe centrale et orientale avec la question par exemple des minorités magyares, des minorités hongroises dans les bassins des Carpates, 3 millions de personnes en Slovaquie, en Roumanie, dans les pays de l'ex-Yougoslavie, en Autriche et en Ukraine, et bien tout ça du fait d'une migration politique du traité de Trianon du 4 juin 1920. Vous voyez que l'Union européenne a des opérations militaires en Europe même. La perspective des adhésions des pays issus de l'ex-Yougoslavie, la Croatie, la Turquie qui ont maintenant le statut de candidat, la Macédoine est en attente, ça ne saurait tarder, ainsi que la Serbie qui tente de donner le maximum de caution à l'Union européenne. Et puis, donc ça, c'est pour le bloc germanique et l'Europe du Nord. Et puis une volonté russe, eh bien, de contourner les pays baltes, la Pologne, les pays baltes, la Pologne, pour un accès direct au cœur de la puissance européenne occidentale. Enfin, une opposition, donc pour finir sur l'opposition géopolitique, l'hétérogénéité, entre des pays qui ont une ouverture sur la mer et qui ne sont pas enclavés et qui ont une vocation à la fois continentale sur l'Europe, mais aussi ultramarine. Le cas le plus prégnant, c'est la France, qui a une égale répartition de ses frontières maritimes continentales. Et puis, des États qui sont plutôt, disons, à la charnière de deux politiques continentales, vers l'Est ou vers l'Ouest, comme l'Allemagne, cas tout à fait emblématique. Alors, les trois questions qui structurent l'évolution des sociétés européennes à l'heure actuelle sont essentiellement, eh bien, une question d'ordre démographique. Mauvaise nouvelle, je vous disais, effectivement, l'Union européenne et l'Europe dans son ensemble connaissent une vraie crise démographique. Un autre élément structurant, c'est le phénomène migratoire. Vous parliez, cher professeur, de la naissance de l'homme en Afrique et de son arrivée, et puis cette migration extraordinaire, historiquement racontée avec toute votre force d'évocation. Et bien là, c'est une nouvelle migration, principalement africaine. Vous savez que l'Union européenne est le premier centre de réception de l'immigration extra-européenne, évidemment. Je veux dire africaine, essentiellement. Et puis, le troisième effet structurant qui se traduit notamment par les doutes exprimés par les populations, quand je dis doutes, c'est à tout le moins, c'est évidemment la question identitaire. D'ordre démographique. La population européenne, qui est une population de 27 pays, qui représente la majorité en termes de population et en termes géographiques de l'Union européenne, qui n'a vraiment qu'en face d'elle, à part quelques États tampons, que la Russie, eh bien, représente 495 millions d'habitants. C'est le troisième élément ordre géopolitique du monde après la Chine et l'Inde, mais avant les États-Unis. Sa densité de population est intéressante de constater qu'elle est tout à fait hétérogène. Les densités nationales moyennes de population sont effectivement constituées différemment selon les pays. Alors qu'on aurait pu croire dans un processus d'unification, l'Europe n'est pas jeune, c'est même une vieille Europe, je crois, telle que des responsables politiques américains l'ont rappelé, eh bien, nous avons une hétérogénéité également de densité. Il suffit de regarder ici, nous voyons que dans cette Europe, il y a une continuité de densité importante et une certaine hétérogénéité de densité faible ou très faible. Je n'insiste pas sur les pays concernés, vous les avez reconnus, vous constaterez bien que la France est un pays de très faible intensité, d'abord parce que c'est après l'Ukraine et la Russie, bien sûr, le pays le plus étendu, qui a la plus grande superficie, mais également parce qu'elle est victime ou bénéficiaire, c'est selon, eh bien, de son phénomène de centralisation politique sur sa capitale, ce qui n'est pas le cas d'une Allemagne vraiment fédérale. Certains parlent de plusieurs Allemagnes et qui a réussi une densité de population plus, nous allons d'ailleurs préciser ça comme ça, voilà, une densité de population et une armature d'agglomération tout à fait distincte, voire on peut le dire opposée. Cette hétérogénéité, je ne la détaille pas, mais elle est évidemment facteur de distinction, d'appréciation différenciée, qu'elle soit culturelle, économique ou autre. Alors en termes de démographie, je vous ai dit, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, la démographie de l'Union européenne est celle non pas d'un vieillissement, mais d'un à tout le moins survieillissement, et pour au moins la moitié de la population de l'Union européenne et de l'Europe d'ailleurs en général, un phénomène de dépopulation. Certains démographes évoquent par exemple le puits de dépression démographique concernant des États comme les 10 États qui viennent de nous rejoindre, vous voyez, comme quoi on peut analyser l'actualité avec le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Effectivement, ce surcroît de population est un surcroît tout à fait réel, mais c'est un surcroît de population très âgée, puisque aucun de ces 10 États n'a un excédent naturel positif. Pour le puits de dépression démographique dans l'Europe plus occidentale, eh bien, vous avez trois pays essentiellement, l'Italie, l'Espagne et surtout évidemment l'Allemagne. Donc les facteurs de vieillissement, vous les avez sur les tableaux ici, mais une chose tout à fait intéressante est de constater que la France, pardon de parler de la France quand on parle de l'Europe, mais la France à elle seule assure presque les deux tiers du renouvellement de la population, évidemment hors immigration, donc du solde naturel. Vous voyez en haut de la colonne de droite, c'était 2006, hein, à peu près 289 000 d'excédents naturels entre donc les morts et les naissances. Le total de l'Union européenne, ça ne dépasse pas les 350 000. Donc Bruxelles appelle la France comme le réservoir de population de l'Union européenne. Est-ce qu'on doit s'en réjouir? Oui et non, hein, puisque cela veut dire donc que nous sommes rentrés dans un processus lourd. Voilà, je ne détaille pas ces différents tableaux. La population de l'Union européenne, qui a augmenté toujours à pays constant, hein, de 31%. En termes de population entre 1950 et 2007, eh bien, devrait commencer à reculer d'ici 2050, d'après les prévisions de l'ONU. Elle représentait 13% de la population mondiale en 1950, 7% en 2007, et elle en représentera moins de 4% en 2050. Donc le processus n'est plus celui d'une migration vers le trop-plein, mais l'inverse. La population de l'Union européenne est donc à la fois vieillissante, pour deux raisons qui sont cumulatives. Eh bien, l'allongement de la vie, ce qui est tout à fait appréciable, mais également l'effet cumulatif de la diminution du taux de fécondité. Alors, ces élargissements, mais je n'insiste pas là-dessus, les élargissements récents, que ce soit celui de 2004, le cinquième, et celui de 2007, le septième, eh bien, n'ont apporté aucun gain en termes d'excédent naturel. Bien au contraire, ils ont vieilli la population de l'Union européenne. Je n'insiste pas non plus là-dessus. Mais vous voyez, par exemple, qu'un des effets tout à fait évidents, c'est dans les agglomérations urbaines, eh bien, l'absence tout à fait singulière de l'Europe, même dans une projection assez proche, donc fiable, de 2015. L'Europe est complètement absente dans la projection qui est faite. Deuxième élément, pour faire vite, le phénomène de migration. Vous avez compris que les deux éléments sont liés et qu'ils sont à la fois une grande chance pour l'organisation de l'Union européenne, mais en même temps facteur de déstabilisation s'ils ne sont pas forcément bien gérés. Facteur de chance, la libre circulation des personnes. Vous savez, il y a quatre libertés de circulation, je n'insiste pas, de biens, des personnes, des capitaux et des services. Et la libre circulation des personnes, eh bien, c'est l'un des piliers de la réalisation du marché unique. Pas de marché unique sans liberté de circulation. Vous savez que, pour faire une comparaison rapide, dans l'organisation régionale entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, il y a toutes les libertés de circulation sauf celles des personnes. Eh bien, cette difficulté d'intégration, qui s'est traduite d'ailleurs par la construction d'un mur le long du Rio Grande, a quand même fortement perturbé l'idée d'une intégration régionale tout à fait à la fois fraternelle et d'intérêt commun, comme également le réseau des maquiladores, des entreprises qui sont organisées de l'autre côté du Rio Grande et non pas aux États-Unis. Cette suppression, cette matérialisation, cette concrétisation d'un projet commun qui permet la migration interne des citoyens européens par la suppression des contrôles aux frontières intérieures et donc par la création d'une frontière extérieure qui s'élargit au fur et à mesure de l'arrivée des pays candidats, est réglementée par le système de Schengen. Schengen est à la fois la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union et à la fois l'organisation de sa protection, de sa sécurité, mais également l'organisation du séjour des citoyens non européens, notamment au moyen d'une politique en matière d'asile et d'immigration. Cette libre circulation des personnes donc se réalise concrètement à partir des années 90. Les citoyens de l'Union européenne sont pratiquement les seuls au monde à jouir à cette échelle, et surtout d'un pays à l'autre, nous ne sommes pas encore dans le cadre d'un État fédéral européen, d'une liberté tout à fait sans précédent. Le système d'intégration européen lui-même est exorbitant du droit commun des organisations internationales, mais cette liberté sans précédent, donc pour se déplacer, pour vivre, pour travailler, où ils l'entendent dans l'Union européenne. Les étudiants migrent aussi, vous le savez, et par exemple en France, la part des étudiants étrangers inscrits dans l'enseignement supérieur, on l'oublie peut-être, atteint 11% de la totalité des inscrits, soit presque 300 000 étudiants. En Allemagne, 11%, à peu près la même chose qu'en France, 11%, et là aussi le nombre correspondant. Mais c'est en Grande-Bretagne que le record est battu, 16% d'étudiants étrangers. Donc cette possibilité de voyager, de migrer, est un droit fondamental au sein de l'Union européenne. Alors il y a des exceptions dans certains pays, je vous parlais d'hétérogénéité. Par exemple, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Bulgarie, Chypre et la Roumanie ont maintenu un système progressif, mais un système progressivement qui va s'ouvrir, mais un système donc de fermeture des frontières. Les 5 millions de ressortissants de pays tiers qui travaillent actuellement dans l'Union jouissent également de ces possibilités de circulation, puisque des procédures communes ont été mises en place pour tout ce qui concerne le regroupement familial et l'intégration des nouveaux arrivants dans une atmosphère, dans un environnement inconnu. Mais cette immigration, il a bien fallu l'organiser pour plusieurs raisons. D'abord, ce que je ne vous apprends pas, c'est évidemment les crises économiques successives qui ont à la fois demandé un apport d'immigration de travail, mais également les crises qui ont conduit à un chômage important et donc à la tentative de la régulation de cette immigration de travail qui est devenue, comme vous le savez, une immigration de peuplement. Cette pression, non seulement elle est toujours aussi forte, mais elle va ne faire que s'accentuer. Vous voyez, on s'est arrêté à 2050, les démographes sont des gens raisonnables. Mais on voit tout de suite, je n'ai même pas besoin de commenter ce tableau, ni celui-ci. Donc cette évolution générale de la diminution des actifs par une baisse du taux de natalité et de fécondité dans l'Union européenne, cette baisse de la population de l'Union de façon drastique, c'est-à-dire 4% si aucun flux migratoire ne venait le compenser, eh bien cette évolution, vous comprendrez bien, pose des questions à tout le moins en termes d'emploi, de santé, de régime de retraite, de dynamisme économique en règle générale. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'Union européenne est le premier centre d'immigration. Devant les États-Unis d'Amérique, il y a trois grands centres mondiaux d'immigration dans le monde. C'est évidemment l'Union européenne, principalement et largement. C'est ensuite les États-Unis d'Amérique et c'est enfin les Émirats du Golfe, mais dans une mesure beaucoup moins importante. Donc, dans cette poussée migratoire, il y a eu également, dans un premier temps, eh bien, l'attente d'une poussée migratoire des peuples de l'ex-Union soviétique. Eh bien, cette poussée migratoire, cette logique de liberté de circulation intérieure, a très peu fonctionné dans ce sens. L'on voit ici que la majeure partie des migrations viennent du continent africain, de l'autre côté de la Mare Nostrum. Les migrations sont le fait d'une migration de peuplement à l'issue d'une migration de travail, mais peuvent être également celles d'un statut de réfugié particulièrement favorable dans le cadre de l'Union européenne. Cette immigration a constitué et a organisé à partir de l'Europe eh bien un véritable soutien largement au-delà de la politique de coopération, notamment par le rapatriement des capitaux, des gains, des transferts financiers des immigrés africains ou d'origine africaine en France, eh bien, a constitué un véritable soutien à l'Afrique. Je crois que le fonds que représente le transfert financier des immigrés dans l'Union européenne vis-à-vis de leur pays d'origine représente 10 fois la politique de coopération. Un immigré européen fait à peu près vivre 10 personnes en Afrique. Donc nous sommes dans un cadre de relations tout à fait bilatérales et de relations de réciprocité. Mais malheureusement, dans les pays comme dans des sociétés d'accueil, comme on dit en Europe, l'Europe est passée d'un statut d'émigration. Vous savez que la plus grande émigration vers les États-Unis est européenne, bien sûr, à celui de région, donc d'immigration. Eh bien, cela a provoqué des effets cumulés, donc de ressentiment. La perte des empires coloniaux, la construction d'une Europe supranationale, eh bien, les conséquences de la mondialisation des entreprises, de la mondialisation de la culture, eh bien, génèrent une difficulté qui est celle du maintien, voire de la reconstruction d'une identité commune. Parce que cette Union européenne, eh bien, elle doit, pour continuer à exister, puisqu'elle n'est naturellement pas un État et elle est beaucoup plus qu'une seule organisation internationale, eh bien, elle met cette situation de crise identitaire, met en péril les modèles d'intégration et même un modèle multiculturel. Il y a encore quelques années, les universitaires pouvaient bénéficier de fonds de recherche de la part des programmes de recherche européens sur la pluriculturalité, le multiculturalisme, etc., etc. Eh bien, le ressentiment s'est fait sentir jusque dans ces programmes. Donc, l'Union européenne connaît, nous devons le dire, une certaine incomplétude. Une incomplétude de son expression de puissance qui se traduit par un doute des populations sur son identité et qui provoque un déficit d'adhésion des opinions publiques. Vous le savez, le Parlement européen, qui n'a acquis sa capacité de passer d'une assemblée parlementaire à un Parlement européen, c'est-à-dire le suffrage universel direct en 1979, a vu les dernières élections européennes, les deux dernières élections européennes, passer sous un taux de 45% de taux de participation, c'est-à-dire sans compter les partis qui mettent en doute l'existence même de la poursuite de la construction européenne. Donc nous avons un déficit d'adhésion qui est essentiellement dû, et c'est mon dernier schéma, eh bien, à la difficulté de l'Union européenne d'affirmer son identité. Pourquoi ? Parce que l'identité est forcément discriminatoire et quasi définitive. Une fois que l'Union européenne se sera identifiée, se sera définie, elle ne pourra plus, puisqu'elle aura discriminé son identité par rapport à l'autre, eh bien, elle ne pourra plus continuer son élargissement. Or, l'Union européenne n'a pas envie d'arrêter son élargissement. Nous avons ici, sur le flanc sud, tous les pays balkaniques sont appelés à devenir membres de l'Union européenne. Le rapprochement de la Russie n'est peut-être pas terminé. Et puis, il y a le célèbre cas turc sur lequel je vais m'arrêter, mais le cas turc est celui qui chatouille le plus les opinions européennes sur la nécessité, eh bien, de défendre un projet commun, une définition commune de ce qu'est l'Europe et de ce que la Turquie pourrait apporter ou, au contraire, transformer l'Union européenne en une zone de libre-échange sans vocation politique. Vous savez, le débat est posé, c'est celui de l'identité. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Christophe Réveillard évoquait à l'instant l'unicité de l'Europe au cours de l'histoire au XXe siècle. Le précédait le professeur Henri de Lumley pour une communication consacrée à l'arrivée des hommes préhistoriques en Europe. Cette conférence ouverte au public avait lieu en décembre 2008 à l'Institut de paléontologie humaine. Pour consulter le programme des prochaines conférences, nous vous invitons à consulter le site www.fondationiph.org. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de prochaines émissions.